France Musique.
Le casque et l'enclume. Bonjour à tous et bienvenue dans le casque et l'enclume, votre séance critique. Elle sera torride aujourd'hui à cause du beau temps, bien évidemment. Mon Dieu qu'il fait chaud et qu'il fait bon, on est bien ravis de cela. Et puis à cause bien sûr des spectacles que nous aurons vus, qui n'en doutons pas, mettront nos trois critiques du jour en transe. J'ai nommé Christian Merlin du Figaro, Rémi Louis de Diapason et Pierre Flinois de Classica et de l'avant-scène Opéra. Au programme donc pas mal de concerts avec entre autres Yannick Nézet-Séguin qui revenait aux côtés d'Emmanuel Ax. On entendra encore Andris Nelsons qui dirigeait lui Chlorios Forionvlokt dans du Wagner. Et puis surtout, on va aller au théâtre du Châtelet. Et pour commencer cette émission, entendre la Pelle Hélène, comme disait Michel Serrault. C'est un extrait de La Belle Hélène de Jacques Offenbach, la chanson d'Oreste captée sur les planches du Théâtre du Châtelet il y a quelques jours, puisqu'on peut y voir La Belle Hélène dans une nouvelle production signée Giorgio Barberio Corsetti et Pierrick Sorin, ce qui nous avait donné déjà un Rossini, La Pietra del Paragone, il y a quelques années. Là, c'est sous la direction de Lorenzo Viotti, avec une très jolie distribution sur le papier, en tout cas dominée, suppose-t-on, par Gaël Arquez, qu'on a reçu dans cette émission il y a quelques jours, pour nous parler d'ailleurs de La Belle Hélène et de bien autre chose. Christian Merlin se trémoussait en entendant cette chanson d'Oreste, hein, c'est qu'il aime ça, il aimait ça, Christian, le spectacle.
Ben, moyennement, en fait, pour tout vous dire. Il y a des problèmes dans ce spectacle. Il y en a plus d'un. Il y a des problèmes qui posent la question fondamentale de l'horizon d'attente. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend selon qu'on a des références d'écoute, de vision, déjà de la même œuvre, au besoin au même endroit. Parlons-en, pour comme ça, ce sera soldé. Oui. Et puis après, on n'en parle plus. Le Châtelet, La Belle Hélène, Minkowski, Pelli, il n'y a rien à faire. Ça a été une production déjà légendaire de l'histoire de ce théâtre. Voilà. Immense et qui laisse des souvenirs inoubliables. Alors évidemment, bien sûr qu'il faut laisser leur chance aux nouveaux interprètes pour qu'ils puissent proposer une autre lecture, une autre vision. C'est évident. On ne va pas rester tout le temps avec nos vieilles lunes d'anciens combattants. Néanmoins, il faut lutter avec ces souvenirs-là. Et là, on est loin du compte, franchement. En tout cas, de mon point de vue. L'autre problème, je dirais, il est plus spécifique à cette équipe Corsetti-Sorin. J'avais déjà été très réticent à leur travail dans La Pietra del Paragone et je retrouve le même type de problème, à savoir que c'est une façon de faire de la mise en scène qui est... C'est terrible ce que je vais dire parce qu'il ne va plus rester grand-chose, mais à la fois anti-musical et anti-théâtral. Ouais. C'est-à-dire que cette manière de mettre l'action en vidéo avec une manière très virtuose de filmer, d'utiliser les caméras, d'utiliser l'illusion d'optique, ça c'est fait extraordinairement. Mais du coup, il y a des problèmes très, très concrets, très spécifiques. Un, on ne sait jamais où regarder. Mmh. Est-ce qu'il faut regarder la scène, les acteurs en vrai ou l'écran qui est derrière eux, ça crée un dédoublement et ça brise le rythme, je trouve en tout cas, ça brise le rythme musical et ça freine tout le temps. Et
on a une œuvre qui vient avant tout par le rythme d'ailleurs.
Exactement. Donc moi j'ai eu un problème fondamental de ce côté-là. Mais peut-être que ça ne regarde que moi. Hein.
Pierre Flinois, qu'est-ce qu'il en dit lui ?
Je suis entièrement d'accord.
Ah, d'accord.
Je suis aussi moyennement satisfait de la production. Les souvenirs de Pélis, moi je l'avais vu 3 fois. Là j'ai pas envie d'aller revoir une deuxième, une troisième fois le spectacle. Le vrai problème, c'est un problème de systématisme. C'est-à-dire, quand on a une bonne idée, c'est bien. Utiliser la vidéo, c'est très bien. Et quand soudain, on se dit au bout de 20 minutes que c'est un petit peu toujours la même chose, que du coup, la mise en scène sur le plateau est une espèce d'agitato permanent, mais où rien ne ressort. Parce qu'effectivement, comme le dit Christian, on ne sait pas quoi regarder. Est-ce qu'on lève les yeux vers l'écran quand il consent à descendre? Parce qu'il y a aussi des moments où on a un grand espace bleu. Totalement vide, qui nous sert de décor. Est-ce qu'on regarde ce qui se passe sur scène ou c'est un petit peu, encore une fois, du brouhaha scénique? Je trouve que l'ennui s'est un petit peu installé au premier acte. Ça va un petit peu mieux quand ça se resserre au deuxième, au troisième acte. Mais en fait, les scènes de chœur sont pas vraiment maîtrisées. On ajoute de l'animation pour faire de l'animation.
Et de l'animation, mais pas de direction d'acteur.
C'est brouillon. Exactement. Oui. Et alors, il y a un exemple qui, pour moi, est absolument tout à fait typique de ce type de production. C'est l'air d'Hélène au deuxième acte, où elle évoque son père et sa mère, le cygne et l'Eda. Alors c'est très amusant, on rigole beaucoup, parce qu'il y a un faux cygne qui fait des mamours, je dirais, à une Léda très très dénudée. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute pas l'air. On est tellement absorbé par ce que nous montrent les écrans que Gaël Arquez, qui est pourtant formidable là-dedans, il faut presque s'obliger à fermer les yeux et à revenir à son chant et à s'intéresser à elle, parce qu'elle est intéressante en plus, dans cette terre en particulier, mais partout ailleurs, qui fait qu'à ce moment-là, on a vraiment une espèce de dichotomie au niveau du spectacle qui me gêne énormément.
Rémi Louis, qui va nous arranger la chose.
Alors,
oui, il va essayer, mais je suis pas sûr.
Non, sur le fond, je ne peux être que d'accord, mais là, on parle avant tout de la mise en scène. Et alors, effectivement, le problème, à mon avis, c'est que la présence de la vidéo, qui est évidemment, comme toujours, dès qu'il y a une vidéo à l'opéra, extrêmement attirante pour l'œil, elle prend le pas, en réalité, sur l'aspect purement scénique, évidemment, ça peut être assez fatigant, c'est difficile à suivre. Je trouve que certains des chanteurs en tirent du bien. Par exemple, Gilles Ragon en Ménélas. Quand ils sont filmés de près, qu'ils sont proches caméra, comme ça, le visage presque un peu déformé, et ils ont une manière, alors que le visage est énorme devant nous, de nous susurrer quelque chose à chacun d'entre nous. Donc ça, c'est assez amusant.
Il faut dire Gilles Ragon a une sorte de propension au bouffe, enfin, le talent
absolument,
pour ça.
Absolument, il a un talent pour ça. Ouais. Évidemment, Lafont en calquage, pareil. Donc, de ce point de vue-là, il y a des choses qui sont très très bien faites. Mais le problème principal, à mon avis, c'est exactement ce que vous avez dit, Lionel, c'est que c'est plutôt le problème de la direction d'acteur. Ça n'est pas tenu. Quand Christian dit que c'est brouillon, je trouve que c'est juste après, c'est acidulé, c'est frais, c'est un côté La Croisière s'amuse et le Club Méditerranée, mm-hmm. je veux dire particulièrement au troisième acte, qui d'ailleurs est très inspiré de Pelli avec les transats et
bon, des choses comme ça. Fauteuils de plage, oui.
Les fauteuils de plage, etc. Un ami me faisait remarquer à juste raison, j'avoue que cette référence m'avait échappé, il y a un côté certain Lem Show avec le départ en canot à la fin, parce qu'ils sont habillés quasiment de la même manière que dans le film.
Avec donc, la réplique personne n'est parfait.
Voilà, exactement. Voilà. Donc, ok, il y a des choses qui sont très très bien de ce point de vue-là. Je dois dire qu'on sort avec un sentiment, malgré tout, de joie, d'amusement.
Ouais. Parce que le public est bien aimé, j'ai compris.
Oui, c'est très bien accueilli. C'est très bien accueilli.
Et mais là, on rejoint l'éternel problème qu'on pose.
Des références qu'on a.
Voilà. Évidemment. Et parfois, du divorce qu'il peut y avoir ou du décalage, oui, entre le regard critique et l'accueil du public, qui fait que parfois, nous, on reçoit des lettres, enfin, je sais pas, vous aussi peut-être, qui nous traitent de snob,
de
blasés, etc. Mais bon, moi, je suis le premier à vouloir m'amuser à Offenbach. J'adore cette musique, j'adore cette œuvre. Là, pour moi, ça n'a pas pris. Mais le public a marché.
Hein. C'est quand même du Offenbach, c'est quand même La Belle Hélène. Voilà. Et ça fonctionne par nature.
L'œuvre n'est pas trahie, on va dire. Ouais.
Voilà, l'œuvre n'est pas trahie. Et puis, souvenons-nous quand même que même dans la production de Pelli, qu'on a tous adoré, souvenez-vous l'arrivée des moutons.
Oui.
Et ça, ce que disait Pierre sur le fait que c'est vraiment très très drôle dans cette production, le cygne effectivement qui tourne autour de Leda est même pire puisqu'il lui passe entre les jambes. Mm-hmm. Je veux dire, donc évidemment, l'œil est attiré par ça. Voilà. Non, c'est mieux pour elle. Le résultat est là, ça donne une très belle Hélène, parce que Gaël Arquez est magnifique. Ouais. Mais ce problème-là, les moutons qui arrivaient chez Pelli, tout le monde hurlait de rire alors que c'était un moment extrêmement nostalgique.
Et Minkowski
n'était
pas content.
Donc ce problème se pose. Après, on peut dire aussi des choses musicalement.
On va y revenir. On va écouter tout de même Gaël Arquez, que vous avez nommé plus d'une fois.
Oh, dear.
nous faut de l'amour, n'en fut-il plus au monde ? C'est beau comme de l'antique, hein ? Bah d'ailleurs, c'est de l'antique, hein, la Belle Hélène, à voir donc au Théâtre du Châtelet à Paris jusqu'au 22 juin. Je vous signale que la diffusion France Musique, ce sera le 27 juin à 19h. Ce sera présenté, bien sûr, par Judith Chen. Et on entendait là, dans cet air d'Hélène, Gaëlle Arquez, qu'on attendait vraiment dans ce rôle de Belle Hélène, parce que non seulement elle a la voix, elle a la présence, elle a la prestance. C'est confirmé, Pierre Flinois ?
Oui, mais avant, je vous dis, c'est pas de l'antique, hein, c'est du bourgeois 19e qui s'amuse, hein, quand même, faut pas confondre, c'est pas Euripide, Eschyle, etc. Oui, je pense que sans Gaëlle Arquez, ce spectacle n'existerait pas.
Ah, carrément.
Ah oui, vraiment. Elle a une présence réelle, elle est belle, elle a le sens de la scène, elle est, quand elle est en format XXL avec les vidéos, parce que c'est vraiment ça, le décor du spectacle, c'est du format XXL, des visages ou éventuellement de quelques petits groupes. Elle est vraiment super belle à regarder, et puis on peut l'écouter vraiment avec du plaisir, parce que elle domine totalement son rôle en tant que reine du chant. Alors, ça n'est certainement pas Hortense Schneider au niveau de l'effet.
Vous l'avez entendu ?
Non. Comme... Christian, je te déteste.
Mauvais esprit.
C'était facile.
Oui, tout à fait. Bon, mais en tout cas, moi je trouve qu'on a une interprète pour Hélène, et ça c'est formidable. En réalité, à chaque fois, c'est ce qu'il faut se dire. Si on n'a pas une Hélène oui, formidable, ça ne convient pas. La dernière, donc, c'était Felicity Lott, qui n'avait pas la gloire vocale de Arquez aujourd'hui. Il était formidable quand même. Il avait la classe, etc. Là, c'est un autre type de classe. Il y a un chien qui est un petit peu plus présent. Ses mimiques sont formidables. Et le chant, il est incontestable pour moi. La voix est un tout petit peu froide, peut-être, au niveau du timbre. Ça ne me dérange pas fondamentalement, parce qu'encore une fois, la tenue de la chose est formidable.
Christian ?
Oh, bah, rien à ajouter. Elle est fabuleuse. Et en plus, elle dégage un magnétisme. Ouais. Enfin,
elle a une vraie aura.
Incroyable. Mmh. Ça, c'est un atout extraordinaire pour une artiste. Je suis sûr qu'elle pourrait très mal chanter. On le lui pardonnerait, parce que elle a déjà en soi ce charisme incroyable, cette beauté, il faut bien dire, physique, et ce qu'elle dégage. Enfin, non, ça, c'est extraordinaire. Le chant, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on sent que c'est quand même un chant français extrêmement travaillé. Travaillé aussi à l'école baroque, d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup de chanteurs issus du baroque qui réinjectent leur science de la diction et de la prosodie dans le répertoire 19e. Et ça marche très, très bien. Entièrement d'accord, alors sur la petite réserve, sur le timbre que j'ai trouvé un peu métallique, hein, le soir de la première. Du coup, ça
peut-être le temps que la production
avance. Voilà.
Aussi,
je pense que ça va s'ouvrir et s'arrondir. Je suppose. Ça m'a frappé deux ou trois fois, mais je pense que voilà, c'est vraiment une affaire de rodage et d'assouplissement.
Juste un mot sur Gaëlle Arquez, Rémi, avant qu'on vienne à la suite de la distribution.
Oui,
aussi.
Et puis c'est ce qu'il y avait pour moi un peu dans cette première, c'est juste une petite raideur. Comme voilà. Elle a un port extrêmement noble, extrêmement altier. Il y avait quelque chose de temps en temps un petit peu dans le chant. Ça rejoint peut-être le timbre, effectivement, qui est juste une forme de raideur. Mais c'est une première et c'est instantanément la chose, on se dit,
au bout de 3 ou 4
représentations, ça s'assouplit, ça devient fluide, etc.
Et sur le reste de la distribution, parce que Pierre nous l'a bien dit, il faut d'abord une Hélène pour chanter cet opéra-là. Le reste de la distribution, il faut peut-être plutôt une troupe, est-ce qu'on l'a ici?
Oui, c'est assez brouillon, en fait, d'une certaine manière. Je reprends sciemment le terme de Christian tout à l'heure. Il y a deux Paris. Donc là, pour la première, nous avions Merto Sungu, qui est donc turc, je crois. Et alors, je dois dire que, manifestement, ils ont beaucoup travaillé pour arriver à lui faire sortir, je dirais, un français relativement correct. Il est effectivement très compréhensible. Il a des faux airs d'Anton Dermota, mais la comparaison s'arrête là. Voilà.
Mais des faux airs, pas beaucoup.
Hein. Non, bien sûr, mais bon, quand même. Mais finalement, il s'en sort relativement bien, même dans le duo. Je trouve, elle est écrasante parce qu'elle est rayonnante, parce qu'elle est naturelle, tout ce qu'on veut. Mais il s'en sort quand même relativement bien par rapport à l'ensemble des choses. Après, Justine Kim, par exemple, qui fait Oreste, c'est une tête à claque habillée comme s'il faisait un spectacle de couture.
Vous dire le chanteur ou son personnage ?
Les deux. Il est un peu tête à claque, mais il joue beaucoup là-dessus. Il est réputé pour une certaine chose qui traîne sur YouTube, ben son imitation à mourir de rire, je dois dire, de Cecilia Bartoli.
C'est lui ?
Oui, c'est lui, absolument.
D'accord.
Qui d'ailleurs l'adore, je veux dire. Enfin, elle a fini par savoir que ça existait. Non, pas du tout.
D'accord.
Non, c'est lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que Yvon Alexandre, quand il a fait sa mise en scène de La Chauve-Souris, lui a demandé de faire ce numéro, parce que c'est vraiment un numéro, sous le nom de Cecilia Bartolski, n'est-ce pas ? Puisque c'est Orlovski, il y aurait. Bon, donc bref, nous nous éloignons. Mais non, il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention quand même, au-delà de la distribution, c'est le chef.
Ouais.
Parce que tout simplement, et c'est quand on y pense quand même, ce sont des enjeux. Lorenzo Viotti a 25 ans, c'est donc le fils de Marcello Viotti, et ce sont tout simplement ses débuts à l'opéra.
D'accord.
Ça veut dire qu'un jeune chef comme ça, qui par ailleurs a été formé et a travaillé avec beaucoup de grands chefs, comme Janson Swaitink, il fait ses débuts à Paris, à l'opéra, dans La Belle Hélène. Alors ok, La Belle Hélène, c'est pas Elektra, mais moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait.
Ans, oui,
voilà.
Fait.
J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait en termes d'élégance, en termes de justesse des climats, en termes de justesse des tempos, mais son orchestre était un tout petit peu, à mon avis, pour moi,
l'orchestre en plus, Prométhée. Hein,
Prométhée, c'était quand même un tout petit peu insuffisant en effectif. Or, il s'est beaucoup battu pour avoir plus que ce qui était prévu au départ. Donc il faut lui rendre cette justice.
Un orchestre Prométhée pour une œuvre à la grecque, c'est quand même pas mal. Pierre Filmois, encore un mot sur la musique, si vous avez quelque chose à rajouter encore.
Non, je suis d'accord avec
l'essentiel.
Mais l'ensemble de la troupe, c'est effectivement une troupe un petit peu disparate. Oui. On a du jeune et du vieux, je dirais. L'important, c'est que ça fonctionne au niveau de l'affect au public. Or, ça fonctionnait bien. J'ai trouvé qu'on a l'idée de rétablir le jeu de loi qui n'est pas la chose la plus intéressante de la partition. Et ça ne fonctionnait pas mieux que la rare fois où je l'avais déjà vu. J'ai trouvé que le premier acte se tirait un petit peu en longueur au niveau des bourrimés et autres charades, etc.
Il manquait un peu d'esprit.
Peut-être d'esprit, mais parce que je pense qu'on a beaucoup travaillé sur les problèmes de vidéo plutôt que sur les problèmes de mise en scène, encore une fois. Donc ça va s'arranger au fur et à mesure, probablement.
Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que la langue française n'était quand même pas toujours très bien servie. Hein. Entre le Paris et le Oreste, justement, heureusement qu'on avait les vieux routiers qui ont un métier fabuleux, comme Jean-Philippe Lafont, Gilles Ragon, Marc Barrard, qui eux, alors, n'ignorent rien du style français, même si les voix sont ce qu'elles sont actuellement, mais alors là, ça fonctionne. Mais il y a quand même des dialogues, et même les airs et les ensembles reposent beaucoup sur le mot, c'était un peu frustrant.
Un dernier extrait de ce spectacle, Les couplets des rois.
Le roi n'a plus qu'à s'avancer, c'est Agamemnon. Le roi n'a plus qu'à s'avancer, c'est Agamemnon.
Un dernier extrait de cette belle Hélène du Châtelet à Paris, dirigée par Lorenzo Viotti. C'est à voir jusqu'au 22 juin. Diffusion France Musique le 27 juin par Judith Chen. On vous l'a dit déjà. Vous savez presque tout. Quand même, si je fais un résumé, il faut y aller pour Galarquez, mais pour le reste, un peu moins, Christian. C'est ça.
Voilà.
Hein, voilà, on dira ça comme
ça.
Il
faut quand même y aller pour Offenbach.
Pour Offenbach, quand même, d'accord.
Et pour découvrir le chef.
Ah, quand même, c'est un beau bras, d'accord.
Non, c'est une carrière à venir, Lorenzo. Il n'y a pas de doute.
Bon, très bien.
France Musique.
Concert symphonique à suivre pour le reste de ce casque, enfin l'essentiel symphonique, mais avec quelques voix tout de même. Vous êtes allés, messieurs, enfin, il est allé, vous, tous les deux, pardon, Christian et Rémi, je vais y arriver, hier soir à la Basilique de Saint-Denis dans le cadre du festival. L'ouverture, c'était avec Schumann, le Paradis et la Pairie, le chœur de Radio France, l'Orchestre National de France, c'était dirigé par Jérémy Rohrer. C'était, on va dire, les retrouvailles de ce chef avec l'orchestre après le fâcheux épisode des Dialogues des Carmélites. Et puis, il y avait quelques belles voix là-dedans. Celle, entre autres, de Karine Dehé, Frédéric Antoun, Edwin Crossley-Mercer, Christian Merlin.
J'ai trouvé que c'était une belle soirée parce que, ben, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'œuvre est superbe, il faut quand même le rappeler. Ça n'est pas assez souvent joué. Évidemment, ça nécessite des moyens forts. Il faut des solistes excellents, un grand cœur, mais ça, c'est loin d'être la seule. Et il y a des requiems qu'on joue deux fois par an. On pourrait, une fois de temps en temps, faire le Paradis et la Pairie. C'est un Schumann à la fois extrêmement lyrique, fervent, je dirais, avec des côtés parfois contemplatifs, un peu naïfs, mais justement, c'est ce qui en fait le charme romantique. Donc ça, c'est une chose. Et en plus, je trouve que dans la basilique de Saint-Denis, c'est un lieu, soyons honnêtes, soyons objectifs, qui n'est pas fait pour la musique.
Oui, avec un long temps de réverbération, voilà. Comme on dit. Hein.
Donc, si on prend des critères stricts de critiques musicaux ou de mélomanes avertis, on va se dire, mais c'est en dépit du bon sens, c'est absurde de faire de la musique là. Ben, depuis que j'y vais, et ça fait il y a longtemps, presque à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe, ouais. Et ce sont des concerts inoubliables. Mmh. Et je ne vais même pas remonter jusqu'à Ozawa, la Symphonie Résurrection, pas besoin. Encore aujourd'hui, la preuve hier, il y a une sorte d'atmosphère qui se crée là et qui inspire les artistes. Donc voilà, alors après, il y avait quelques défauts, en particulier dans les pages en puissance ou alors des pages très rythmiques et polyphoniques où il y avait, je dirais, pas de la mollesse de la part de Jérémy Rohrer, quand même pas, mais en tout cas un certain manque de tension, de tenue et de tension. En même temps, il a fait des choses tellement belles dans les pages lyriques dont je parlais que pour moi ça compense largement, d'autant que les voix étaient superbes.
Concert mémorable pour vous aussi, Rémi?
Non, pas autant que Christian, peut-être. La distribution est magnifique et il faut évidemment citer d'abord Karine Dehé.
Ah oui.
Parce que ça, alors le timbre est splendide. La projection, le mot, tout ça, ça passe dans la basilique.
La voix se déploie.
Voilà, hein, se déploie, c'est très facile.
Elle est en maturité aujourd'hui, on peut dire ça comme ça, Karine Dehé.
Elle est au sommet de ses moyens.
Oui, mais c'est très naturel.
Ouais.
Je trouve que c'est très, très naturel. Il faut noter aussi Frédéric Antoun, qui est le rôle du narrateur, qui n'est peut-être pas encore, je l'ignore, un Liedersänger. Moi, je me souviens avoir entendu Christophe Regardien dans cette partie. C'était absolument exceptionnel. Mais il a un timbre magnifique. La voix est très, très belle. Il m'a semblé un tout petit peu hier, un tout petit peu fermé, un tout petit peu timide. Peut-être un petit peu gêné, je rejoins ce que dit Christian, par l'acoustique. Et c'est vrai que même à l'endroit où nous sommes en général placés, c'est-à-dire dans les 10 premiers rangs, cette acoustique est toujours un petit peu problématique, je dois le reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce de côté un tout petit peu flottant, tournant, comme ça. Et donc, au début, je me suis un petit peu posé la question par rapport à ce que faisait Jérémy Rohrer sur les qualités lyrique, il n'y a pas de doute, mais pour moi, ça manquait vraiment, franchement, de carrure et de tension. Parce que même les épisodes lyriques, tout d'un coup, n'avançaient plus d'une certaine manière. Il y avait quelque chose dans l'équilibre entre les voix et l'orchestre, et bien sûr le chœur, qui a un rôle très important, qui ne me satisfaisait pas tellement. Je mets évidemment dans cette réserve, ou cette interrogation plus exactement, quelque chose qui est lié à la manière dont toujours il faut apprendre à percevoir cette acoustique. Mais quand même, là, il y avait quelque chose qui était... Même dans le rapport au chanteur, il s'occupait, j'avais l'impression, plus de son orchestre que des chanteurs.
C'est vrai que, maintenant, pour rejoindre ce que dit Rémi, il y a une chose qui m'a frappé chez Jérémy Rohrer, qui est un chef qu'on aime beaucoup ici et qu'on suit vraiment très, très activement. C'est dans sa gestuelle, qui n'était pas tout à fait celle qu'on lui connaît d'habitude. Et il y avait même certains gestes ajoutés, voire parasites, qui m'ont un peu surpris. Comme si on était parfois dans l'hésitation. Est-ce qu'on est à quatre temps? Est-ce qu'on est à deux temps? Donc plutôt dans la fluidité, quelque chose qui doit avancer, ou au contraire dans quelque chose de plus décomposé et plus tenu rythmiquement. Donc une forme de flottement, c'est vrai. Mais encore une fois, en plus il faut citer Marita Solberg qui faisait la Peri et qui soprano qui remplaçait Genya Kumeyer initialement prévue et qui l'a fait superbement avec beaucoup de lumière dans le timbre et cette sorte de fragilité et de naïveté qui correspond bien. Donc quelques réserves effectivement sur la réalisation, mais dans l'esprit il y a quelque chose qui passait vraiment.
C'était hier soir en la basilique Saint-Denis, le paradis et la Paris de Robert Schumann.
Thank you.
L'andante du quatrième concerto pour piano de Beethoven, c'était Emmanuel Axe qui est ici avec Michael Tilson Thomas avec l'Orchestre Symphonique de San Francisco. Et bien justement, Emmanuel Axe était samedi dernier au Théâtre des Champs-Élysées, cette fois avec l'Orchestre de Philadelphie, Yannick Nézet-Séguin. Ce n'était pas le quatrième qu'il faisait, mais le troisième concerto de Beethoven, tout autour la troisième de Brahms. On a déjà pas mal parlé de Yannick Nézet-Séguin dans cette émission, puisqu'on est allé voir son concert il y a 2-3 semaines, mais on est bien obligé d'y revenir à ce concert quand même. Qu'en avez-vous pensé, Rémi Louis?
Oui, c'est vrai qu'Yannick Nézet-Séguin, il a tout le temps,
je viens de dire. On va pas s'en plaindre en même temps,
non,
vraiment pas. Hein.
Justement, non. Parce que je pense, au fur et à mesure, avec tous les jeunes chefs que nous avons tous entendus, quand je dis jeunes, on va dire entre 25 et 40, 45 ans, je pense de plus en plus que c'est le plus grand chef parmi les jeunes. C'est-à-dire celui dont la maturité progresse à la vitesse grand V. C'est-à-dire à chaque concert, j'ai l'impression qu'il invente quelque chose de plus. Là, c'était sa première tournée européenne avec l'Orchestre de Philadelphie.
Donc, parce que la dernière fois, il était venu avec Rotterdam, c'est
absolument,
ça?
Absolument, hein, 15 jours avant, 3 semaines avant. En tant donc, que music director, qui a d'ailleurs déjà renouvelé son mandat, il a fait un ordre de programme très remarquable, puisqu'il commençait par la 3e symphonie de Brahms.
Oui,
absolument.
Il a inversé
C'est la 3e symphonie de Brahms, 3e concerto de Beethoven, donc avec Emmanuel Axe, et la grande suite du Chevalier à la Rose. Et je dois dire que c'était, pour moi, musicalement, une merveille. C'est-à-dire qu'arriver à faire à cet âge, avec cette maîtrise technique, qu'il a, il n'est pas le seul chez les jeunes chefs, mais arriver à faire une troisième de Brahms qui soit entièrement, l'expression vaut ce qu'elle vaut, mais qui soit entièrement dans une pulsation poétique, qui soit extrêmement concentré, il est tout le temps dans le modelé orchestral, ça, il peut prendre un tempo vraiment relativement lent dans le premier mouvement, et en même temps c'est tout le temps vivant, tout le temps intégré, cohérent, en train de respirer, j'ai trouvé ça absolument admirable, même des chefs qui sont beaucoup plus capés ne le font pas aussi bien. Mmh. Et le dialogue avec Axe était pour moi tout à fait extraordinaire.
Ah oui.
Mais oui, parce que Emmanuel Axe, on vient de l'entendre d'ailleurs ici avec Tilson Thomas, il y a cette sonorité toujours très lumineuse, cette articulation et surtout cette espèce de naturel presque patelin dans la manière de faire les choses. Alors, c'est très intéressant en termes de style parce que Nézet-Séguin faisait quelque chose de très très intégré dans la troisième de Brahms et dans le Beethoven, par contre, c'était extrêmement combatif avec beaucoup d'imagination dans les contrastes, dans les ruptures.
C'est-à-dire que le dialogue prenait mieux qu'avec Raphaël Blérach 3 semaines avant, c'est ça, hein.
Alors ça, j'ai pas entendu ce concert, malheureusement, j'étais pas là, mais c'était clairement il y avait quelque chose de cet ordre. Et là, Emmanuel Axe arrivait au milieu comme soliste et faisait une chose d'une luminosité totale, donc le rapport, le dialogue soliste-orchestre était quelque chose d'assez inédit en fait d'une certaine manière dans cette exécution.
Alors vous n'étiez pas, Christian Merlin, samedi dernier au Théâtre des Champs-Élysées pour voir cet orchestre-là, mais il se trouve qu'il y a 3 semaines, vous n'étiez pas non plus au Casque et l'Enclume parce que vous étiez parti faire un reportage pour Figaro à Philadelphie justement.
Ah oui, c'est là qu'on se dit qu'on fait un beau métier tout de même, parce que je suis allé entendre ce superbe orchestre dans son jus, si je puis dire, dans sa ville et dans sa salle, ce qui change tout, parce qu'un orchestre en tournée, souvent d'ailleurs, est très stimulé, mais peut être aussi fatigué. C'est très important de le voir aussi dans ses conditions de travail. On se rend compte de tas de choses, du coup. On se rend compte, par exemple, de l'attachement extraordinaire qu'a le public là-bas vis-à-vis de son orchestre. Il y a une fidélité, il y a une complicité, au point que Yannick Nézet-Séguin, outre le talent que vient de décrire Rémi, a aussi une énergie du tonnerre de Dieu qui est complètement, qui doit être épuisante d'ailleurs pour tout son entourage. Et on connaît dans beaucoup d'orchestres et de maisons d'opéra les présentations d'avant-concert. Il y a ça de plus en plus. Lui fait mieux. Il fait les dialogues d'après-concert. C'est-à-dire que le concert se termine et là, il y a une voix dans les micros, dans les haut-parleurs qui dit restez dans la salle, ceux qui veulent. Yannick va se changer. Dans un quart d'heure, il revient et il répondra à vos questions.
D'accord.
Et il dialogue avec le public dans la salle. Et c'est extraordinaire parce qu'il fait ça de manière très vivante, très intelligente. Les gens posent des questions parfois sans concession, sur ses programmes, sur sa manière de diriger. Il répond à tout. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant.
Et le public reste très nombreux ?
Ah, il y avait bien 200 personnes.
D'accord, oui, quand même.
Qui sont restées. Ah oui, vraiment. Et donc, déjà, rien que ça, c'est impressionnant. Et moi, ce qui m'a saisi, j'ai pas vu ce programme-là particulièrement. J'ai vu le 3e de Beethoven avec Emmanuel Axe, que j'ai trouvé aussi superbe. Le reste, c'était une création de Nico Mulli et la 3e symphonie de Rachmaninoff, qui est une des œuvres créées par l'orchestre. Et ça, c'était absolument superbe. Ce qui m'a frappé, c'est surtout c'est la sonorité de l'orchestre, qui reste absolument superbe et surtout qui garde les fondamentaux historiques de l'orchestre, c'est-à-dire une sonorité axée beaucoup sur les cordes, plutôt sombre, veloutée, très très chaude comme ça, presque voluptueuse, on va dire, au point que, par exemple, j'ai parlé avec le hautbois solo Richard Woodhams, qui est là depuis 77, qui a connu Ormandie, et qui me disait que parfois il était obligé de faire une réflexion s'il y avait plusieurs remplaçants dans les cuivres, qui jouaient de manière un peu brillante, un peu clinquante. Il va voir le chef, il dit, vous savez, on a des supplémentaires dans les cuivres, ils sont pas habitués, on joue pas comme ça ici, il faudrait leur dire.
Il y a une manière de jouer ici.
Ah oui,
d'accord.
Voilà, donc ça c'est très important, ce sens d'une identité sonore.
Ah ouais, Rémi ?
Mais du coup, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Christian, c'est que même dans l'acoustique très directe, parfois un peu sèche, du théâtre des Champs-Élysées, ce qui était admirable, c'est le côté onctueux. Ouais. Par exemple, on peut ne pas entendre l'attaque, on ne peut ne pas entendre les reprises d'Archer, mais ce quatuor est d'une telle qualité que ça sonnait justement soyeux, rond, avec une vraie plénitude. Donc vraiment, comme quoi, même quand les salles ont des limites, le théâtre des Champs-Élysées en a incontestablement, comme la Philharmonie de Paris, comme le Titorium ici, toutes les salles ont des limites. Mais néanmoins, ça dépend aussi beaucoup de la manière dont les orchestres se les approprient. Or là, ils sont pas venus 150 fois au théâtre des Champs-Élysées.
Et ils ont été capables de s'adapter très vite.
Absolument. Et ça rejoint absolument ce que vient de dire Christian sur l'effet de cette culture très ancienne et très maintenue avec beaucoup de fierté et d'élégance à la fois.
C'était donc l'orchestre de Philadelphie qu'on a pu voir à Philadelphie pour Christian Merlin, mais à Paris aussi la semaine dernière.
Die
Richard Wagner, un extrait de Lohengrin chanté par Klaus Florian Vogt. C'était Jonathan Nott qui dirigeait l'orchestre symphonique de Bamberg dans le récital Wagner que Vogt a donné pour Sony il y a un an ou deux à peine. Et puis il était en concert justement lundi avec Andris Nelsons qui dirigeait l'orchestre de Birmingham. Si je ne me trompe, c'est bien cela, Pierre Flinois. Vous y étiez là. Il y avait une première partie consacrée à Wagner, donc quelques extraits de Parsifal, Lohengrin. Et puis deuxième partie, Antonin Dvorak. Sur Vogt peut-être pour commencer, Pierre ?
Sur Fauque, bon, il est très, très connu quand même. Il a déjà chanté Lohengrin en concert à Pleyel il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, à Paris. C'est l'interprète de Lohengrin attitré à Bayreuth depuis 2010. L'année prochaine, il va prendre Parsifal à Bayreuth, qui sera dirigé d'ailleurs par Nelsons. Donc on était une espèce de...
Dans une pré-Bayreuthinerie.
Voilà, exactement. Une pré ou post, c'est comme vous voulez. Alors naturellement... L'orchestre de Birmingham, ça n'est pas Philadelphie, bien évidemment.
C'est pas un mauvais orchestre, ça n'est pas un
extraordinaire orchestre. Il y a quand même quelques problèmes de timbre dans les bois, etc. Ils sont pas passionnants. Alors, quand on joue le Vendredi Saint de Parsifal, on a besoin d'une émotion instrumentale qui n'était pas présente sur la scène des Champs-Élysées. Faucht, après, c'est un problème en soi, parce que moi, personnellement, je déteste M.
Ah bon,
Faucht.
Carrément, d'accord.
Je trouve qu'il a un timbre épouvantablement blanc, nasal. Ouais. Je trouve qu'il c'est pas un chant qui exprime, qui déborde d'intelligence, etc. Mais j'admire le technicien du chant. Il a un art du chant qui est extraordinaire. Il ne faut pas oublier qu'il a été corniste en début de carrière, donc il sait ce que c'est que le souffle, il sait ce que c'est que le ménager, et donc pour ça, ces diminuendo, ces allègements, ça, ce sont des choses formidables. Je dois dire aussi qu'à chaque fois que je l'ai vu, non pas comme ça, fragmentairement, parce que ça lui convient pas, d'une certaine façon, mais que je l'ai vu en continuité dans un spectacle ou un concert, je suis toujours en train de au premier acte, et à la fin, j'applaudis à tout rompre, parce qu'il arrive à me convaincre quand même que c'est un grand artiste.
Bon,
donc, il faut accepter sa propre difficulté à apprécier la chose. Il y a eu des moments formidables. Encore une fois, les allégements. La dernière phrase du dernier chant de Parsifal, où il dit « Öffne den Schrein », c'était absolument ébouriffant de beauté. Il y a eu des choses moins belles. Il a fait en bis un air de Siegmund avec un von Mond qui était vraiment pas joli. Bon. Mais c'est un grand chanteur. Après, on a le droit d'aimer ou ne pas aimer. Enfin, c'est mon opinion, voilà.
Vous êtes un peu mitigé, visiblement. Rémi Louis.
Oui, il faut dire quand même pour lui, c'est que l'exercice du fragment, littéralement, ce que vient de dire très justement Pierre, c'est dans Wagner, c'est quand même tuant. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il valait mieux débarquer tous les extraits orchestraux que j'adore, qui sont sublimes, tout ce qu'on veut, et faire par exemple la troisième scène du premier acte de la Valkyrie avec la soprano, etc. Mais les extraits comme ça, ça découpe, les fins d'ailleurs sont assez abruptes. Mais ce qui m'a frappé quand même, ça rejoint ce que dit Pierre, qui le connaît bien mieux que moi, c'est que quand même, ça ne donne pas l'impression d'un interprète inspiré. Mmh. C'est un magnifique chanteur. Il y a des choses qui me gênent, moi, personnellement, dans le timbre. Il y a ces voyelles qui deviennent tout d'un coup très acides, très nasales. Et dans le chant, dans l'expression, je veux dire, ça a un côté prosaïque, enfin, par moments. Alors, je veux bien, j'admets tout à fait qu'on puisse le mettre sur le compte de cet extrait. Il entre, il sort, il revient. Mmh. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Mais là, pour le coup, il y a quelque chose qui est une limite, me semble-t-il, ce que vient de souligner Pierre. C'est difficile à dire.
Pas de la personne, hein, mais
voilà, c'est difficile à dire, mais il y a quelque chose comme ça qui reste prosaïque. L'une des plus belles choses pour moi, c'était Infernum Land, donc de Lohengrin, qui arrivait à la fin où là, la voix était déployée, chauffée, je vais dire, si je peux le dire comme ça. Ok, il y a vraiment quelque chose de magnifique, en effet, dans la conduite, incontestablement. Mais dans l'expression, je dois dire que moi, j'étais vraiment assez déçu.
Peut-être encore sur Andris Nelsons, quand même, on n'a quasiment pas parlé.
C'est pas un charnel, hein, Faucht, par rapport à Jonas Kaufmann, par exemple. Et il choisit pas la facilité, d'ailleurs, il ne choisit pas du tout, c'est sa façon de faire. Mais il a cette voix presque blanche qui, parfois, peut évoquer une voix d'enfant. Mais une voix d'enfant très puissante, parce qu'il est capable de beaucoup de puissance, mais il sait aussi l'alléger. Voix extrêmement peu vibrée. quasi absence de vibrato, ici, voilà. Ce qui fait que parfois la justesse est prise en défaut, et ça, ouais. Ça peut être très surprenant.
On ne reprochera pas de masquer ça.
Exactement.
Dans le vibrato.
Donc c'est vrai que c'est un phénomène en soi. Ouais. On le prend ou on le laisse. Andris Nelson, moi c'est vraiment un chef que j'aime vraiment beaucoup et qui m'emmène quelque part même quand c'est imparfait. Je dois dire que malgré le côté fragmentaire que je ne supporte pas non plus, a fortiori dans Wagner, l'enchantement du Vendredi Saint dégageait quand même une sorte de calme et de sérénité que je trouvais assez magnifique et magnifiquement assumée. En revanche, là où je vous rejoins tout à fait, c'est que il faut bien dire que l'orchestre de Birmingham est un orchestre assez quelconque, au fond. Et on a maintenant la chance d'entendre à Paris toute l'année les plus grands orchestres du monde. Et parfois, c'est vrai que quand on entend Berlin, Vienne, Amsterdam, Philadelphie, on se dit, oulala, bon, on a encore du chemin à parcourir ici. Quand on entend Birmingham, on se dit, mais ils sont très bons, nos orchestres, à Paris, après tout. Les corps étaient inexistants, par exemple, et ça manquait un peu de pâte. Même si la direction avait de la dramaturgie dans la symphonie de Dvorak, qui avait après la septième de Dvorak, il y avait un sens de l'atmosphère et de conduire un récit.
Il n'y avait pas les couleurs, il n'y avait pas les timbres.
Je suis d'accord.
C'était donc l'orchestre de Birmingham, dirigé par Andris Nelson, avec Klaus Florian Vogt. C'était lundi au Théâtre des Champs-Élysées.
France Musique.
On va refermer cette émission avec un coup de cœur et celui de Rémi Louis qui a vraiment été très mauvais camarade parce que normalement c'était Christian qui a mis son coup de cœur. Rémi l'a poussé, il pousse toi de là que je m'y mette.
C'est toujours pareil.
C'est toujours pareil, hein.
Même pas autorisé,
Christian, ça tombe toujours sur moi.
Vous parlerez de Maurice André une autre fois parce qu'il y a un coffret, mais ce sera pour un autre jour. Là, on n'a plus le temps. Il faut ce coffret Carl Böhm absolument parce que là, Rémi, il y tient. Faut dire du Carl Böhm qui nous arrive en coffret de combien? 23 disques 23 chez Deutsche Grammophone. Oui. Les derniers enregistrements, late recordings, comme on dit dans le titre.
Oui, absolument. Dont l'intérêt principal est de réunir vraiment des choses qui étaient à la fois tout à fait usuelles, qu'on connaissait bien, et des choses qui ont été très peu rééditées en CD en Europe, comme ensemble, c'est-à-dire par exemple les trois dernières symphonies de Tchaïkovski avec le London Symphony, toute une série de symphonies de Haydn avec le Philharmonique de Vienne. Tout ça a été réédité en permanence au Japon, mais assez peu en Europe. Donc l'intérêt déjà est celui-là, c'est-à-dire avec Londres, surtout Vienne et aussi Dresde, une 9e symphonie de Schubert absolument extraordinaire. C'est très intéressant à écouter dans la continuité parce que tout d'un coup on a une image de Böhm un petit peu différente de ce qu'on connaît usuellement.
C'est-à-dire
que il y a dans le dernier Böhm, je pense qu'il y a des choses qu'il faut réapprendre, me semble-t-il. C'est notamment dans le rapport au tempo. Beaucoup de ses enregistrements sont en fait faits, on l'a oublié parce qu'il était très actif jusqu'à la fin de sa vie. Beaucoup de ses enregistrements ont été faits autour de ses 80 ans. C'est-à-dire, c'est déjà un vieux chef pour l'époque, hein, je veux dire, 80 ans en 1974. Et il y a un rapport au tempo, il y a un rapport à la manière de faire vivre le texte qui a, pour moi, aujourd'hui, complètement changé chez la majorité des chefs.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte de vivacité aussi, peut-être?
Au contraire, c'est-à-dire qu'il peut prendre des tempos qui sont souvent, dans ces années-là, relativement plus retenus que tout un ensemble de chefs aujourd'hui. On va l'entendre dans cette symphonie de Haydn qu'on a choisie. Mais par contre, la manière de faire vivre, de faire converser l'orchestre, est une chose qui, en soi, à mon avis, est exceptionnelle. Là, le Philharmonique de Vienne joue à un niveau très exceptionnel, et il joue presque comme de la musique de chambre.
Et c'est la 92e symphonie de Haydn que vous nous proposez, Rémi.
Thank you.
Finale de la 92e symphonie de Joseph Haydn, Oxford. Karl Böhm dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Vienne en 1974. Cet extrait d'un coffret apparaît entre mes Jérémy la semaine prochaine. 23 disques sous le titre Karl Böhm Late Recordings chez Deutsche Grammophon. Ça fait envie, Christian?
Ah, hein, c'est magnifique.
Ah ouais.
Puis la grande époque du Philharmonique de Vienne, ah, en oui, plus les années 70.
Il n'y a pas eu de petite époque au Philharmonique de Vienne.
Ah, quand même, ah, si, quand il y a eu quelques années creuses.
Oui, oui. Puis le côté musique de chambre, on l'entendait bien, la Rémi, c'est vrai ce que vous me disiez tout à l'heure. Hein.
Oui, c'est la respiration. Ce que disait Pierre hors micro, c'est à la fois relaxé, c'est vraiment relaxé dans le tempo, ça a une espèce de respiration très naturelle, ça n'est pas du tout relâché, parce que dans l'articulation et les accents,
quand même, hein,
absolument,
ah ouais,
c'est très remarquable, mais ça vit justement, ça vit différemment, il faut reprendre le temps de vivre à ce tempo, si j'ose dire, quand on entend ces disques.
Ainsi s'achève ce casque qui était préparé par Françoise Montaille, réalisé par Antoine Courtin, avec aujourd'hui José Bernays et Sophie Salieu-Marie. Merci à mes invités du jour, Christian Merlin, Pierre Flinois et Rémi Louis.